Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Plongeons dans cette catéchèse qui nous est donnée de vivre ensemble en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train de regarder dans cette petite série de catéchèses sur le péché, justement. Nous avons vu la réalité du péché, ce qu'il est, la gravité du péché. Nous allons voir aujourd'hui, et cela peut nous servir pour nous confesser, pour préparer sa prochaine confession, la prolifération du péché. Et nous allons aujourd'hui parler en particulier du péché d'orgueil. Et lorsque le catéchisme de l'Église catholique parle de la prolifération du péché, au paragraphe 1865 et suivant, il nous dit « Le péché crée un entraînement ». Au péché. Il engendre le vice par la répétition des mêmes actes. Il en résulte des inclinations perverses qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Ainsi, le péché tend-il à se reproduire et à se renforcer. Mais il ne peut détruire le sens moral jusqu'en sa racine. C'est-à-dire qu'il y a toujours au fond de la conscience cette lumière de ce qu'on appelle la loi naturelle que Dieu donne à tout homme, quelle que soit sa religion. Fais le bien, évite ce qui est mal. C'est extraordinaire la conscience. C'est comme cette chambre d'écoute, la conscience humaine. Cette chambre d'écoute de la parole de Dieu, de la loi divine, qui incline notre cœur à pratiquer le bien et à éviter le mal. Alors le catéchisme nous dit, mais le péché peut produire des effets néfastes qu'on appelle tout simplement le vice, qui est l'inverse de la vertu. C'est-à-dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, c'est-à-dire qu'en pratiquant, par exemple, la vertu de justice, qu'on devient de plus en plus juste. La vertu de tempérance, ou la vertu de prudence, ou la vertu de force. Il y a donc, comme on dit, un habitus. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus facile à être juste en pratiquant la justice. Et à l'inverse, par exemple, celui qui ment une fois, il fait un mensonge. Ça lui fait tout drôle, parce qu'il n'est pas habitué. Et puis, il ment une deuxième fois. Ah, ça lui fait un peu moins choc, vous voyez, deuxième fois. Ah, ça fait un peu drôle, mais bon. Puis une troisième fois. Ah. Et puis, ça devient un habitus, dans le sens, du coup, pas du bien, mais du mal, c'est-à-dire un vice. Et puis au bout d'un moment, la personne, ben, elle ment comme elle respire, comme on dit. Comment ça se fait? Eh bien, c'est que justement, le péché porte en lui-même un aspect de prolifération. Il faut faire attention. Même si, comme nous dit le catéchisme, il ne peut détruire le sens moral jusqu'en sa racine, parce que dans la racine de notre cœur, il y a toujours le Seigneur qui vient frapper à la porte. Et que nous pouvons toujours nous convertir. Dieu merci. Les vices peuvent être rangés, nous dit le catéchisme, d'après les vertus qu'ils contrarient. Je prends un exemple, justice ou injustice. Force, prudence ou imprudence. Tempérance, intempérance. Par exemple, les vertus théologales. La foi ou le doute. L'espérance ou la désespérance ou la présomption. la charité. Alors, il y a aussi les vices qui peuvent être rangés dans les péchés capitaux. Nous allons le voir. Les péchés capitaux, c'est l'expérience chrétienne qui a distingué ces péchés à la suite de Saint Jean Cassien et de Saint Grégoire le Grand. Ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Nous devons les connaître par cœur. L'orgueil, nous allons le voir, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, ou la luxure, la gourmandise et la paresse ou assédie. Alors, dans le programme des catéchèses, je ne vais pas m'attarder à tous les péchés capitaux, mais je vais m'attarder sur quatre péchés capitaux qui me semblent les plus importants et les plus nocifs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil. Ensuite, nous parlerons de l'envie, la jalousie. Ensuite, de la colère. Et ensuite, de la paresse ou l'assédie. Parce qu'il me semble que sur les sept péchés, mais c'est mon point de vue à moi, sur ces sept péchés capitaux, ce sont les quatre qui sont les plus nocifs à notre âme. Et nous avons les remèdes. Le Seigneur nous donne les remèdes qu'il faut pour pouvoir justement combattre et surtout être victorieux de ces péchés. La tradition catéchétique rappelle aussi qu'il existe des péchés qui crient vers le ciel, le sang d'Abel, le péché des sodomites, Genèse 18, 19, la clameur du peuple opprimé en Égypte, et oui, opprimer un peuple, la plainte de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, l'injustice envers le salarié. Le péché est un acte personnel. De plus, nous avons une responsabilité dans les péchés commis par d'autres quand nous y coopérons. Ah bon ? Oui, la coopération au péché des autres. Comment est-ce qu'on peut coopérer au péché commis par d'autres ? Eh bien, c'est en participant directement et volontairement, bien sûr. Par exemple, association de malfaiteurs, vous voyez. Quelqu'un veut faire un casse, et on dit, pas de problème, moi je viens avec toi et je vais te donner un coup de main. Hein? Donc, participer directement et volontairement. Aussi, en les commandant, les conseillant, les louant ou les approuvant. Par exemple, à une jeune fille qui se pose la question d'avorter, eh bien, si vous êtes du côté du conseil, oui, je te conseille de le faire, c'est vraiment très très bien, ça fait partie de ta liberté, je t'approuve complètement. Et si vous êtes catholique, attention. C'est une manière de coopérer à un péché commis par d'autres. Donc, participer directement, volontairement, les commandant, les conseillant, les louant, les approuvant, en ne les révélant pas ou en ne les empêchant pas quand on y est tenu. Quand on y est tenu. On peut donner son avis, je te conseille plutôt pas. Je te donne mon avis, tu es libre, mais voilà moi ce que je pense. Quand on y est tenu. Parfois, le Seigneur nous demandera de souffrir en silence et d'offrir cette souffrance. Quand on voit quelqu'un tomber dans le péché. Et quatrième point de coopération avec le péché d'autrui, c'est en protégeant ceux qui font le mal. Ainsi, le péché rend les hommes complices les uns des autres, fait régner entre eux la concupiscence, la violence et l'injustice. Les péchés provoquent des situations sociales et des institutions contraires à la bonté divine. Les structures de péché sont l'expression et l'effet des péchés personnels. Elles induisent leurs victimes à commettre le mal à leur tour. Dans un sens analogique, elles constituent, entre guillemets, un péché social. Et oui, c'est-à-dire que nous sommes dans une société, frères et sœurs, il faut bien regarder ça en face, où il y a finalement beaucoup de victimes. Victimes de la pression de la société. Victimes de structures de péché, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient de propagande, d'idéologie qui imprègne tellement les mentalités que l'être humain est très faible devant tel ou tel péché parce que telle ou telle tentation, en tout cas, parce qu'il se dit, mais tout le monde fait comme ça. Non seulement tout le monde fait comme ça, mais tout le monde me dit que c'est bien. Alors ma conscience me dit que c'est pas forcément bien, mais il y a donc un combat et la pression est très très forte. Peut-être comme jamais, je pense comme jamais. Il faut donc non pas relativiser le péché, mais avoir beaucoup de compassion pour le pécheur qui, à l'époque où nous vivons, est entouré, vit dans un monde très, j'allais dire, où le péché règne. Il y a même des institutions contraires à la bonté divine. Il y a plein de choses qui existent ici-bas qui sont contre la bonté divine, qui sont le fruit direct des inspirations, des suggestions du démon. Les structures, les organisations, des réseaux. Et donc, le pauvre être humain, il est pris là-dedans, dans des filets du loi de l'oiseleur. Et il est très difficile d'y résister. Voilà ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique sur la prolifération du péché. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, le péché prolifère. Il dépasse le cadre uniquement personnel. Il devient un environnement qui tire vers le bas. Heureusement, le Seigneur nous sort, nous tire, nous sauve, nous tire, nous prend la main. Vous comprenez que dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, l'importance d'une réalité comme Radio Maria, qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui annonce le salut, qui tend la main aux pécheurs pour qu'ils se convertissent et qu'ils changent de vie. Car on voit bien que le monde dans lequel on vit, eh bien là, le vent a tourné. Là, ça fait un an que le vent a tourné. Il y a quelque chose qui se passe. Ça sent pas bon. L'homme est de plus en plus privé de ses libertés. Il y a quand même une cocotte minute qui est en train de bouillir. On voit bien des structures de péché en place. On voit bien la propagande, on voit bien les idéologies nombreuses, on voit bien la pression médiatique. Qui est victime de ça? C'est l'être humain qui ne veut que bien vivre ici-bas et qui aujourd'hui, dans cette période très spéciale, est quand même opprimé. Qui opprime l'homme? Est-ce que c'est Dieu? Non. Dieu libère l'homme de l'oppression, des oppressions. Mais qui veut Dieu en ces jours où nous vivons, hein? Qui cherche auprès de Dieu son secours? Qui cherche auprès de Jésus son aide? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Nous avons fait de la science une idole et nous nous prosternons devant les scientifiques, devant les statistiques, nous nous prosternons devant la science. Nous avons oublié le Seigneur. Alors, c'est une idolâtrie. Cela fait partie d'ailleurs du premier commandement. Nous pouvons examiner notre conscience pour bien nous préparer à une bonne confession, qu'elle soit fréquente, avant Pâques, là, régulière, ou bien une grande confession générale, par rapport par exemple aux 10 commandements. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. De qui attends-tu ton secours? Ou à qui tu donnes ta foi, ta confiance? Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur. Alors du coup, est-ce que le Seigneur est ton Dieu et l'unique, et ton unique? Ou est-ce que tu as quand même un petit peu de superstition, un petit peu de magie, un petit peu de spiritisme, cette espèce d'ouverture aux esprits, cet esprit d'ouverture, vous voyez? Ah, il faut être ouvert, hein. Mais ouvert à qui? À quel esprit? Notre esprit s'ouvre-t-il? Nous sommes dans une période où il y a beaucoup d'esprits néfastes qui parcourent le monde, l'esprit des airs. Et on le voit d'ailleurs. Si on ouvre son propre esprit personnel, si on ouvre son cœur, si on ouvre l'espace en nous à tous ces esprits qui pullulent en ce moment, nous voyons les fruits. On se rapetisse, on est un peu plus confiné en nous-mêmes, vous voyez. On perd l'espérance, on baisse la tête, on regarde plus ses pieds, on se dit on n'a pas d'avenir. On se dit on va tous mourir, quoi. On est foutu. Vous voyez, l'esprit de plombage. Vous croyez que ça vient de Dieu, ça? Ah, je suis plombé. Ah, posons-nous la question. Alors, c'est sûr que quand l'homme est oppressé par toutes sortes de ses esprits, il va chercher. Il va chercher, il dit, alors, ça va aller mieux pour moi, superstition. Un petit voyant, là, ça va être quoi ma vie demain? Hein? Est-ce que je vais quand même, dans cette galère, rencontrer Jules, Juliette? Hein? Et c'est quand? C'est qui? Je vous dois combien? Bon, 50 euros. Attention. Attention. Premier commandement, Seigneur, vraiment, je te fais confiance. Tu es l'unique Seigneur de ma vie. Premier commandement. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Troisième, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Est-ce que la messe est encore quelque chose d'important pour toi, de facultatif, de... Quelle est la place de la messe? Quelle est la place du travail dans ta vie? Est-ce que le travail, c'est toute ta vie? Ah oui, ah ben oui, moi je trime depuis tout petit. Je mérite le fruit de mon travail. Oui, tu le mérites. Mais c'est bien de travailler, c'est bien de bien travailler d'ailleurs aussi. Mais est-ce que c'est toute ta vie, le travail? Est-ce que c'est ordonné par rapport à tes relations, par rapport à ton conjoint, tes enfants, par rapport à Dieu? Est-ce que le travail dans ta vie est à sa juste place? Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre, quatrième commandement. Est-ce que tu laisses mourir ton père, ta mère dans un EHPAD? Est-ce que tu prends des nouvelles de temps en temps? Ou est-ce que tu as pardonné à tes parents? Oui, parce qu'ils ne sont pas parfaits, tes parents. Ben oui. Mais tu vois, ta vieille mère, ton vieux père, tu ne peux pas le laisser partir comme ça sans l'avoir pardonné. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre. Cinquième, tu ne commettras pas de meurtre. Sixième, tu ne commettras pas d'adultère. Cet adultère dont Jésus nous dit qu'il naît dans le cœur. Un homme qui regarde avec convoitise une femme, ça y est, adultère. Ah bon? Ah bah oui, bah, ils n'ont pas couché ensemble, ils n'ont rien fait, ils sont même pas parlé, mais l'homme, il a péché, péché d'adultère. Dans le cœur. Madame n'est pas au courant. Et puis, dans ce sixième commandement, quelle est la place de ton lien à la pureté du regard? L'adultère, ça peut être aussi, eh ben, être adultère avec des jeux vidéo, par exemple. Ah ouais, je passe 5 heures devant un écran à jouer vidéo, du coup, je ne suis plus avec mon conjoint, en train de m'occuper des devoirs des enfants. Vous voyez? C'est ce qui nous sort de notre devoir d'État. C'est ce qui nous sort de la volonté de Dieu. Septième, tu ne commettras pas de vol. Alors, dans le sixième, on peut ranger, voilà, tout ce qui touche à la pornographie, masturbation, tout ce qui est impureté, vous voyez. Parfois, certains chrétiens ne savent pas que la masturbation, ben, vaut mieux le remettre en confession quand même. Parce que pourquoi? Ben, c'est dans le courant, justement dans l'air du temps, cet air pollué dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui disent que ça soulage et que ça fait du bien. Hein? Et comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, vous voyez un peu? Bon. Ben non. Et puis, dans tes rapports avec ton conjoint, est-ce que tu t'es servi ou est-ce que tu t'es donné? Bon. Tu ne te commettras pas de vol. Tu ne commettras pas de faux témoignages, mensonges, médisances, calomnies, dénigrements, falsifications, garder la réputation, pardon, d'autrui. Est-ce que nous aimons la vérité? C'est notre rapport à la vérité, là, qui est dans le huitième commandement. Neuvième, dixième, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Dixième, tu ne convoiteras pas, pardon, rien de ce qui est à ton prochain. Nous en parlerons lorsque nous parlerons du péché capital d'envie ou de jalousie. Et puis, il y a, voilà, les 10 commandements, on peut se préparer par rapport à ça, vous voyez. Et puis, les commandements de l'Église. Il y a les commandements de l'Église. Ah, moi je pensais que c'était fini, moi, les commandements de l'Église. C'était avant ça, non? Avant le Concile. Ben non, c'est toujours d'actualité, figurez-vous. Ah, qu'est-ce que nous commande l'Église encore, hein? Eh bien, le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Sainte Messe et de s'abstenir des œuvres serviles. La messe dominicale, c'est une obligation, hein, c'est un commandement de l'Église. Pourquoi? C'est pas pour nous embêter. C'est pour nous dire, ben, mon enfant, si tu vas pas à la messe, ben, tu vas être si faible, si tiède. Tu vas pas carburer au bon carburant là, de l'amour de Dieu qui se donne à toi dans chaque Eucharistie. Et en particulier le dimanche, parce que normalement, ben voilà, tu bosses la semaine, et puis le dimanche un peu moins, bien sûr. Ce précepte, ce commandement ne va pas pour ceux qui sont obligés, dans un autre sens, de travailler le dimanche. Tout fidèle est tenu par l'obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an. Oh, une confession annuelle? Ah bah franchement, c'est gentil, moi, je trouve. Je vous le dis en toute sincérité. Si vous vous confessez une fois par an, comme demande l'Église, ben, c'est bien, si vous voulez, mais pour moi, c'est vraiment insuffisant. Ça dépend où vous mettez le curseur de votre vie spirituelle. Si vous vous dites, ben, pourvu que moi j'ai la moyenne, c'est bon. Ben, je peux vous dire que si vous vous confessez par exemple une fois par mois, c'est beaucoup mieux par exemple. Beaucoup mieux que deux fois par an, genre à Pâques et à Noël, vous voyez. Le mieux, c'est de fréquenter la confession d'une manière régulière. Qui dit régularité, ben, une fois par mois, c'est bien. Ça permet de se jeter dans la miséricorde, de se laver au bain, au torrent de la grâce. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Alors l'Église est large, hein, je trouve, en disant, ben voilà, messe tous les dimanches, une confession par an. Tout fidèle est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques. Ah ben voilà, les anciens se disent, ben tiens, il y a des retours d'ancienneté là. Ah, je vais faire mes Pâques, donc je vais me confesser pour communier à Pâques. Bon, ben, oui, mais c'est le minimum. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu vives du Christ, donc si tu fréquentes pas les sacrements, c'est quand même les voies ordinaires, habituelles, par lesquelles le Seigneur vient te rencontrer. Pourquoi nous retransmettons la messe sur Radio Maria? Parce que la messe est tellement importante que pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, au moins ils vivent la communion spirituelle. Pourquoi? Parce que la messe est hyper important pour notre âme. Bon, on ne peut pas se confesser par téléphone ni par la radio. Dommage, hein? Non, parce qu'il faut ce contact. Au jour de pénitence fixé par l'Église, les fidèles sont tenus par l'obligation de s'abstenir de viande et d'observer le jeûne. Voilà. Mercredi des cendres, vendredi saint. Et enfin, les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église. Cette obligation vient de l'Ancien Testament, déjà où il y a la dîme, vous savez. Normalement, il y a une partie des revenus qu'on a, eh bien, c'est pour les autres, c'est pour le Seigneur, c'est pour le culte, c'est pour le... Vous voyez? C'est pour l'Église, c'est pour Radio Maria. Voilà. Donc, normalement, ça doit faire partie de notre budget, que lorsqu'on a 100, eh bien, il y a une partie qui part pour ce qu'on appelle l'Église, les œuvres, vous voyez? Radio Maria, ou bien Radio Maria, ou bien Radio Maria, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Voilà, frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire un petit peu, de faire un petit peu l'examen de conscience avec les commandements, les 10 commandements, les commandements de l'Église. Et nous pouvons parler aussi donc des 7 péchés capitaux. Je vous ai dit ce que c'était. C'est l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse. Alors saint Thomas d'Aquin, il va dire un petit peu, à la suite de Jean Cassien, comme je vous disais, et puis de plusieurs personnes qui ont réfléchi sur ces questions, des saints, des théologiens, ils disent que, comme dit saint Jean, en reprenant saint Jean, n'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse vient non pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voilà donc devant un choix. Soit je vis de la volonté de mon Père du ciel, soit je vis selon le monde. Et le monde, sa manière de vivre au monde, qui est sous la régence du prince de ce monde, comme on dit, ben c'est la convoitise. C'est-à-dire que ce n'est plus dans la volonté de Dieu que je trouve ce qu'il me faut, ma vie, mon être, non seulement mon être, mais ma vie, mon amour, mes lumières, ce dont j'ai besoin. Parce qu'il est hors de question que le Seigneur abandonne ses enfants. Mais je vais essayer de tirer du monde ce que moi je pense être bon pour moi. Donc du coup, convoitise de la chair, c'est une convoitise qui a comme objet un bien de mon corps. Donc plaisir de la table, par exemple, gourmandise. Qui est à distinguer d'aimer les bonnes choses, d'être gourmet, heureusement. Aimer les bonnes choses, alors surtout en France, mais ça fait partie vraiment de la culture. Ah, on aime bien manger. L'art de la table. Miam, 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 miam. Alors, la gourmandise, c'est pas d'aimer les bonnes choses. C'est dans l'usage démesuré des biens de la table. C'est-à-dire prendre, se resservir trois fois, si vous voulez, alors que, bon, c'est bon. Hein. Mais c'est délicieux, par contre. Aimer ce qui est bon, c'est pas un péché, vous comprenez ? Et puis, dans les biens du corps, non seulement le plaisir de la table, donc gourmandise, mais autre objet, ceux du sexe, ce sera la luxure. Puis, convoitise des yeux, c'est Saint Thomas d'Aquin qui fait ce classement, ce rangement. Convoitise des yeux, c'est un peu plus loin que mon corps, c'est le bien extérieur à mon corps. C'est, par exemple, la richesse. Et du coup, ce sera l'avarice. Ben, il y a les gens qui sont radins. Ben oui, ça existe. Vous connaissez tous comme moi le film L'Avare avec Louis de Funès, hein ? Un délice. Voilà. Et puis, il y a l'orgueil, qui a pour objet un bien spirituel. Nous allons y revenir, bien sûr. Alors, soit on convoite, soit on fuit un bien qui est considéré comme un mal. Alors, quand on fuit un bien que nous considérons comme un mal, il y a deux sortes. Par exemple, l'autre, la jalousie. Parce qu'on s'attriste par la jalousie, on s'attriste du bonheur d'autrui. Et cette tristesse peut aller jusqu'à vouloir sa destruction dans la colère. Et puis, à l'égard du tout autre, j'allais dire, eh ben, on est triste. On s'attriste du bien spirituel qu'est Dieu. On est déçu de Dieu. Et il y a donc une... Nous allons y revenir parce que c'est mortifère et nous allons prendre une catéchèse là-dessus. C'est l'acédie, qui est plus que la paresse, vous voyez. C'est plus que être sur son canapé pendant des heures à être devant son smartphone et à regarder n'importe quoi avec son téléphone. Ça, c'est de la paresse, oui. C'est une perte de temps. L'oisiveté, la mère de tous les vices, comme on dit. Parce que ça va engendrer, justement, et c'est une des caractéristiques des péchés capitaux, qui vient de caput, la tête, et ben, ça engendre, parce que quand on est sur son canapé à regarder son téléphone pendant des heures, si vous voulez, pendant ce temps-là, on n'est peut-être pas présent à Dieu, on n'est pas à notre devoir d'État, puis il y a telle personne qui réclame notre présence, on dit « Attends, j'arrive », et puis on ne rend pas service, etc., etc., et puis, ben, et puis, voilà. Ça en engendre d'autres. Voilà. Alors les propriétés des péchés capitaux, c'est qu'ils nous gouvernent. Voilà, ils sont là, ils essayent en tout cas de nous gouverner. Ils sont excusés, justifiés, tolérés par la société et l'entourage. Mais enfin, mon père reprenait un petit peu de sauce avec ce pruneau et cette pintade, c'est trop bon quoi. Allez. Encore un peu de vin ? Oui. Vous ferez une bonne sieste. Donc nous sommes, c'est vrai, dans une société où les péchés sont tolérés. Oh, c'est mon péché mignon. Ah, mon péché mignon. Oh, c'est mignon. Ben non, le péché n'est pas mignon. Certains sont moins repérables que d'autres, car plus intérieurs, telle la jalousie. Ce sont des vices, je l'ai dit, ce sont des mauvais plis répétitifs, etc., inverses et vertus. Et puis, ils poussent, c'est vrai, sur un terrain psychologique favorable, parce que il est très important de distinguer ce qui est d'ordre spirituel, donc le péché est d'ordre spirituel, de l'esprit, et l'ordre psychologique. Mais c'est vrai que comme nous sommes un, notre esprit n'est pas séparé de notre corps, séparé de notre âme, de la dimension psychique de notre âme, eh bien nous sommes un. Et donc il y a des terrains psychologiques qui favorisent un peu plus que d'autres, prédisposent certains péchés. D'où l'importance capitale de bien discerner ce qui est d'ordre psychologique et ce qui est d'ordre spirituel. Et c'est l'enjeu du combat spirituel, c'est d'abord discerner pour combattre. Alors bien sûr, nous y reviendrons, je vois l'heure qui tourne. Nous allons entrer dans un petit peu les détails de quatre péchés capitaux. Nous allons voir tout ça dans le détail. En repérant ces péchés en nous, bien sûr, ce n'est pas le but de ces catéchèses, n'est pas juste de pointer du doigt, mais c'est de nous donner les remèdes pour nous ouvrir à la grâce, à la miséricorde, et pour expérimenter le salut en Jésus-Christ, bien sûr. C'est le Seigneur qui est victorieux du péché. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.